L'objectif initial, Jean-François, c'était de rassembler des personnes qui ne se parlent pas souvent, mais qui auraient tout intérêt à se parler. C'est-à-dire des développeurs de technologies destinés aux cliniciens et ben, les utilisateurs, donc les médecins. Donc, ce qu'on a fait, on a rassemblé 5 équipes qui étaient composées à presque part égale de médecins, surtout de médecins de famille en pratique. Il y avait des résidents, il y avait quelques personnes qui étaient plus dans la gestion des cliniques et ils étaient face à des gens qui créent de la technologie pour ces gens-là et qui ont. On voyait, il y avait différentes entreprises là, qui avaient chacun leur approche face à impliquer des utilisateurs. Mais je crois que peu importe leur niveau d'ouverture, ils ont tous beaucoup appris de cette journée-là. Donc, c'était vraiment de créer un lieu d'échange entre ces deux groupes-là pour faire en sorte que, puis ça découle des travaux de Soignons la Tech. Je t'en avais déjà parlé dans un épisode passé. Mais la lignée Soignons la Tech, c'est de faire en sorte que ben, les outils numériques soient mieux adaptés pour le day-to-day, le workflow des soignants. Excuse-moi tous les anglicismes qui sont sortis d'un coup. Parce qu'on a constaté, c'est ça le travail de Soignons la Tech pendant 1 an et demi, 2 ans, que ben, la technologie, ça n'aidait pas vraiment les cliniciens et au contraire, ça pouvait malheureusement les ralentir, leur causer plus de job parce que ben, on a un peu numérisé des processus qui étaient inefficaces à la base. Ça, c'était pas quelque chose que c'est quelque chose en fait que moi je ressentais comme médecin de famille, comme clinicien, mais je n'avais pas vraiment mis de mots dessus, puis je ne l'avais pas aussi bien identifié. Fait que là, on a vraiment, avec l'aide de Claire et de ses processus et ses post-it, on a réussi à identifier c'était quoi les gros enjeux, puis à un peu se diriger là-dessus. Et finalement, le hackathon, c'était la culmination de ces 2 ans-là de travail où on mettait en pratique tout ce qu'on avait découvert finalement au travers sur la tech.
Puis on va y revenir aussi, mais tu as parlé de processus versus de numérisation. Puis j'en ai entendu parce que j'étais présent là moi-même en tant que coach. Et je revenais donc à Claire Clagré qui est là aujourd'hui ici avec nous. Qu'est-ce que tu as fait dans ce. C'était quoi la direction que tu as voulu donner à ça?
Là, moi, je vais m'intéresser aux expériences donc, qui touchent aussi comment est-ce que les gens travaillent, comment les espaces sont aménagés. Je vais vraiment avoir une approche qui est très globale. Donc, à la base, quand on a commencé, on a vraiment travaillé avec les cliniciens comment est-ce qu'on pouvait réorganiser finalement les soins. Donc, on avait créé tout un parcours de étape par étape, comment est-ce que ça pouvait fonctionner mieux, puis avec l'assistance de la technologie aussi, mais pas uniquement. Fait que ça, moi, c'est ça que j'avais essayé de faire. Puis c'est sûr que pour le hackathon, on était quand même à nouveau reparti dans une vision un peu plus produit. Mais on a quand même commencé la première partie du hackathon par faire se parler justement ces deux groupes de personnes, donc les cliniciens d'un côté, les fournisseurs de l'autre. Donc les faire échanger sur, OK, mais c'est quoi la réalité terrain? C'est quoi les besoins? C'est quoi les contraintes? Puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, parce qu'on a fait des débriefs avec les gens qui ont participé, c'est que c'est vraiment une des choses les plus intéressantes que je trouve qui est ressortie, c'est que ça aidait à développer l'empathie au-delà finalement de l'usage à l'intérieur de l'outil. Donc les gens ont pu finalement développer des relations, avoir une compréhension sur OK, mais c'est quoi, à quoi ça ressemble ton travail? C'est toutes les questions qu'on ne peut pas poser quand on est dans une entrevue d'1 heure, puis qu'on a des questions vraiment très fonctionnelles pour essayer de faire ressortir c'est quoi les interactions souhaitées. Ben là, le hackathon, il a permis de faire ça. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui va vraiment, je l'espère, durer dans le temps. C'est comme tous les gens qui ont participé, ils repartent avec cette empathie, là, la fameuse empathie qu'on cherche tout le temps, mais qui finalement, ben, ça ne se construit pas quand tu es dans un questionnaire de comme est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que ça marche ça? Est-ce que quand tu cliques, est-ce que tu trouves? Non, non, non. Fait que ça, c'est.
Non. Ouais, et ils avaient devant eux, là, il y avait quoi, 5 équipes avec des petites salles, il y avait quelques cliniciens, quelques personnes de ces compagnies-là. Ce qui m'a surpris aussi, que j'ai trouvé très agréable, c'est que ce n'était pas de l'amélioration des produits existants par ces compagnies-là, mais ils sont allés dans des problématiques ou des choses qui étaient hors de ces boîtes-là. Donc, moi, ce que j'ai eu dans mon équipe ou l'équipe avec laquelle j'étais en début de journée, c'était la problématique du centre de rendez-vous. Demander à son assistante ou à quelqu'un d'envoyer un fax à une centrale de rendez-vous qui doit trouver le meilleur spécialiste ou ce qu'il y a besoin. Mais ça, c'est juste de découvrir et d'entendre ça. On avait tous, à part ceux qui le vivent, on avait un peu tous la bouche ouverte en se disant, oh mon Dieu, ça se passe encore comme ça, là.
Ouais, puis des trucs de genre, ben, faut que je me lève de mon poste, faut que je me lève de mon bureau, puis que j'aille voir La secrétaire qui est dans son bureau, puis en passant, je sais même pas dans quel bureau elle est aujourd'hui. Fait que, en tout cas, plein de choses comme ça, que c'est comme, c'est au-delà de l'interface, justement, de elle-même, là, mais que tu as besoin de comprendre tout cet univers pour être capable de concevoir des bons produits.
Et vous avez intégré quelque chose de super intéressant pour qu'on arrive à réaliser quelque chose. Vous avez introduit l'intelligence artificielle là-dedans. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça?
Moi, je te dirais que l'intelligence artificielle, je m'en sers constamment à tous les jours. J'en mange, j'essaie de voir comment ça peut aider, comment ça peut m'aider moi dans mon travail de façon, tu sais, un peu pour me soutenir, mais comment ça peut aider aussi point de vue des systèmes, puis comment ça peut aider ben, dans la communication simplement. Puis ce à quoi ça servait l'IA dans le hackathon, c'était de permettre aux cliniciens qui ne savent pas programmer, qui n'ont jamais fait une interface de leur vie, qu'ils ne connaissent pas vraiment ce que ça veut dire UX puis UI, mais de créer des interfaces à partir de leurs besoins. Ça, c'était un drôle de hackathon qu'on a fait parce que pendant la première moitié de la journée ou presque, c'était interdiction d'ouvrir les laptops. Hein, c'était seulement des gens qui se parlaient, qui réfléchissaient, qui s'organisaient. Et à partir d'un moment, on leur a dit « Bon, maintenant, vous pouvez aller avec les ordinateurs, vous pouvez rentrer les besoins que vous avez identifiés, rentrer les problèmes, écrire les étapes que vous voulez que votre prototype fasse. » Et là, l'IA, de par sa magie, a converti un problème, un besoin, puis une idée de solution qui venait de naître depuis une demi-heure à peu près,
ouais,
en quasiment un produit, là, une interface fonctionnelle. Ça permettait vraiment de faire la translation entre c'est quoi le besoin ressenti du clinicien puis qu'est-ce qu'il pense qui l'aiderait, puis de mettre ça dans un écran d'ordinateur où le concepteur de logiciel ou de technologie ben, peut voir exactement c'est quoi le besoin ressenti de son utilisateur.
Et c'était très révélateur parce qu'on a tous passé un peu à droite et à gauche, puis on s'est aperçu que c'était les cliniciens qui utilisaient l'intelligence, qui utilisaient dans ce cas-ci des licences de Lovable. C'était assez impressionnant la vitesse à laquelle ils créaient des interfaces. Oui, Claire.
Ça me fait penser que c'était vraiment intéressant aussi parce que ça permettait des boucles d'itération vraiment très rapides.
Vraiment.
Où en fait, tu avais à la fois des cliniciens qui étaient comme « Attends, moi, je vois ça comme ça », à la fois des fournisseurs qui étaient comme « Attends, est-ce que ça marche comme ça ?» Puis les cliniciens qui étaient comme « Oh my God, non, ça ne va pas se passer ça là. » Puis après, hop, OK, on essaye autre chose. Est-ce que là, ça marche mieux ? Fait que ça créait vraiment quelque chose versus quand tu fais des tests utilisateurs, ben là, tu es comme un peu pris comme « Ah, OK, bon, ben, conclusion, ça ne marche pas très bien nos affaires. On retourne à la planche à dessin puis on viendra encore une autre fois. » Fait que là, c'était vraiment le fun de voir cette dynamique-là, puis tu sais, cette effervescence, en fait, là, la rapidité avec laquelle ils avançaient vers des meilleurs projets. Là.
Où est-ce que ça nous amène, cette évolution-là? Parce que c'était incroyable de voir ça, de voir des médecins, des cliniciens commencer à faire de l'interface et de les présenter au numéro 2 de Santé Québec à la fin de la journée. C'était waouh! On avait un résultat comme on n'a jamais vu dans des hackathons. J'ai assisté à beaucoup d'hackathons et l'hackathon, normalement, c'est quelques lignes de code que comprenne qui veut à la fin de la journée, peut-être un modèle d'affaires. Là, on avait du concret.
Écoute, je pense que les prototypes en tant que tels, c'était un prétexte. C'était un prétexte pour amener peut-être des prises de conscience ou amener un changement de culture.
Ouais.
Donc, je pense que clairement, le point de vue des fournisseurs qui ont été les mains dedans toute la journée, je pense qu'il y a des apprentissages qui se sont faits, puis clairement, je pense qu'ils sont tentés de collaborer à nouveau avec des médecins. C'était un peu ça qui était dans nos objectifs. Puis ensuite, point de vue des décideurs, tu sais, Santé Québec, tout ça, le choix des technologies qui sont parfois imposées aux soignants, je ne sais pas à quel point il implique beaucoup souvent les soignants. C'est clairement, il y a des gens qui sont consultés, mais de montrer qu'il y a cette possibilité-là de, en quelques heures, extraire, comme si on pressait un citron, là, tout c'est quoi le besoin, la solution, qu'est-ce qu'on peut appliquer. Je crois que ça peut donner des idées hein, à des gens qui seraient, willing d'appliquer de telles techniques pour apprendre c'est quoi réellement les besoins concrets. Je pense qu'on s'oriente vers l'approvisionnement lié à la valeur, ce qui serait très, très souhaitable et probablement aurait de meilleurs résultats que le plus bas soumissionnaire. Là, je pense qu'on a un historique suffisant pour dire que c'est peut-être pas la méthode à favoriser. Donc, je pense que d'impliquer les utilisateurs dans ces choix-là, puis pas au moment de faire le projet pilote où tout est fini, tout est prêt, mais en amont, tu sais, moi, d'avoir des gens des futurs utilisateurs sur le prototype dès le début, pense que c'est gagnant pour les utilisateurs finaux, mais aussi pour les fournisseurs de technologie qui ne vont pas passer des mois et des mois à faire des features, des fonctions de leur logiciel qui ne seront pas utilisées parce que finalement, ils ne répondent pas réellement à un besoin ou ils ne rentrent pas correctement dans le flux de travail des cliniciens.
Oui, ben c'est vraiment, je pense que c'est vraiment important de regarder tout le parcours dans son ensemble, le parcours,
oui.
Puis en tout cas les flux de travail dans leur ensemble, parce que tu sais, c'est vraiment, il y a beaucoup de technologies qui sont impliquées pour différents usages. Fait que tu as comme une multiplication des interfaces, des outils de travail. Fait que c'est vrai, il y a ce côté qui est, puis ça, c'est d'où le travail qu'on a fait, puis qui aurait, je pense, pas pu être fait par non plus un fournisseur. Fait que nous, comme organisation indépendante, ben c'est plus facile de le faire pour nous, mais d'aller regarder, OK, mais c'est quoi qui est pertinent, à quel moment, puis ça, c'est genre, les cliniciens, je trouve, ils sont vraiment excellents pour ça, pour se poser la question de, OK, mais d'un point de vue éthique, c'est quoi le rôle que la tech devrait jouer, mais aussi d'un point de vue de par rapport à la complémentarité, par rapport à mon rôle, là, on parle d'agentivité humaine,
Ouais.
De comme dire, comme, OK, mais c'est quoi que je veux préserver de mon rôle. Donc, tu sais, il y avait cette vision d'ensemble
Vraiment.
qui est hyper importante au travers de toute la journée et puis de toute l'année, on pourrait dire, des cliniciens, parce qu'il y a différents cycles, mais ouais.
Je dirais que quelque chose qui nous inspire, qui n'est vraiment pas relié si directement que ça à Soyons la Tech ou au Hackathon,
Ouais.
C'est le principe des patients partenaires. Les patients partenaires, c'est un peu pris naissance à l'Université de Montréal, ça a grandi beaucoup dans les dernières années, puis c'est d'outiller des patients, dans juste des utilisateurs du système de la santé, pour être en mesure de participer à des comités, participer à des décisions. Maintenant, idéalement, dans toutes les instances décisionnelles pour le système de la santé, pour des soins, on pourrait inclure des patients partenaires, puis on leur demande leur avis. Ce qu'on souhaiterait faire pour les suites de Soyons la Tech, c'est d'avoir des cliniciens partenaires, des médecins partenaires, des infirmières partenaires qui seraient en mesure d'aller représenter un peu les besoins de leur profession, soit dans des processus d'approvisionnement ou simplement dans la conception d'outils qui vont leur être fournis. Donc, on aimerait continuer dans cette voie-là, puis outiller des cliniciens, puis peut-être faire une structure pour permettre ça et faciliter ça, parce que le besoin... En fait, le désir, il est là de part et d'autre, entre les fournisseurs et les cliniciens. Les uns veulent donner leur feedback, les autres le veulent,
ouais.
Mais il n'y en a pas beaucoup d'espace d'échange. Donc, de créer cet espace d'échange-là, puis de le faciliter, puis de donner des outils, puis de donner des mots aux cliniciens et de donner des façons de mieux comprendre ceux-ci du côté des fournisseurs, c'est un peu la direction dans laquelle on souhaiterait continuer.
Et on l'a vu lors du hackathon aussi, l'enthousiasme des cliniciens qui étaient là, c'était vraiment impressionnant et plaisant à voir. Il y avait beaucoup de choses à dire. Ça, c'était très, 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 très cool.
Il y a eu du fun. Je veux dire, de voir ton idée apparaître sous tes yeux. Tu sais, Jean-François, l'IA générative, les premières fois que tu montres ça à quelqu'un ou... L'image apparaît, tu sais, la face de chat en skateboard, peu importe. C'est impressionnant. Puis je pense qu'on n'a pas choisi des cliniciens qui étaient des geeks comme moi. Là. C'était des médecins de famille à l'hôpital St. Mary's. Donc, merci d'ailleurs. J'ai jamais vu St. Mary's qui nous ont prêté leurs locaux. Mais c'était des cliniciens. On ne peut plus, dans la moyenne, du point de vue des compétences technologiques, qui ont été franchement impressionnés de ce qu'ils étaient capables de faire.
Impressionné et impressionnant, vraiment, de par les efforts et le cœur qu'ils mettaient à développer, à prompter littéralement. À partir du moment où tu comprends que prompter, c'est demander clairement ce que tu veux avoir, qui est mieux qu'un médecin pour le faire. Je veux dire, vous êtes quand même des gens qui ont eu assez de niveaux, assez d'études accumulées pour être capable de le faire clairement. Et c'était très, très, très intéressant. La majorité des équipes, comme je l'ai dit tantôt, c'était beaucoup les cliniciens qui promptaient à la fin. Là. Oui, Claire.
Oui, ben, j'ai trouvé quand même, puis je suis vraiment très d'accord avec tout ce que tu dis, là. Je voudrais quand même souligner que les représentants des fournisseurs avaient quand même une valeur ajoutée, puis refaire, je referais un hackathon avec les fournisseurs et les cliniciens, parce qu'il y a quand même une expertise en termes de processus, une expertise en termes de processus de conception, et aussi une expertise en lien avec le vibe coding qui, veut pas, est quand même quelque chose encore émergent, mais même, je trouve, au niveau du processus de conception, d'être capable de dire comme il faut prioriser des fonctionnalités, etc. Je pense que c'est vraiment une recette gagnante d'avoir les deux types de profils autour de la table. Là.
Si le dossier intéresse les gens qui nous écoutent aujourd'hui, où est-ce qu'on les envoie? Et s'ils veulent contribuer, est-ce qu'il y a un appel à contribution? Où est-ce qu'on en est avec tout ça? Et où vont-ils? Oui. Oui, Samuel.
On peut consulter notre site web, donc soignonslatech.ca, sur lequel on peut trouver notre magnifique rapport, quelques outils qu'on a produits là, qui sont plus rapides à consulter. On a un petit formulaire de contact si les gens veulent nous proposer des idées ou veulent s'impliquer. Les prochaines étapes sont en train de prendre forme, mais info@soignonslatech.ca, on va vous répondre.
Ça permet de suivre ce qui s'en vient.
Oui, exact.
Docteur Samuel Garot-Lajoie, merci. Claire Grillet de Meilleur Monde, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. C'était extrêmement intéressant.
Merci Jean-François.